La carte blanche, Africa Radio.
Débat à suivre dans un instant sur la valeur et la crédibilité de la présidentielle du 11 avril prochain au Bénin qui devrait se tenir sans la participation des principaux opposants. D'abord, notre invité carte blanche qui est déjà en ligne.
La carte blanche, Africa Radio.
Titi Bonheur Baseka, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes diplômé en droit et sciences politiques, écrivain, auteur du livre « La denrée rare de la politique congolaise ». Votre premier sujet de ce soir, c'est le second tour de l'élection présidentielle qui se déroule dimanche prochain au Niger. Ce sera donc le face-à-face Bazoum Ousmane. Avez-vous des craintes, puisque en Afrique en général, l'élection est synonyme de tension?
Il n'y a pas tout à fait de crainte à avoir, d'autant plus qu'au premier tour, il n'y a pas eu de tension électorale vive pouvant pousser les habitants à se faire violence. Cependant, il faut souligner un fait, c'est l'absence, sinon le refus du candidat arrivé deuxième, M. Ousmane, d'accepter la proposition qui a été faite par M. Bazoum de débattre sur un plateau télé. Mais au-delà de ça, il n'y a qu'à attendre que les élections puissent se passer en toute quiétude dans ce pays, il faut le dire, où dans la sous-région, tout est un peu secoué par des espèces de confiscation du pouvoir. Mais là, on vit une espèce de passage de témoin entre un président sortant et l'un des deux candidats qui pourra l'emporter.
Je posais la question aussi parce qu'il y a eu dans la dernière semaine de campagne des inquiétudes sur des discours dits haineux prononcés par certains membres des deux camps.
Oui, vous savez qu'en politique, on dit que tout est souvent de bonne guerre et que parfois tous les coups, sinon presque, sont permis. Mais il faut savoir aussi que ce n'est pas toujours parce qu'il y a des discours allant dans le sens de la vivacité que cela peut attiser des haines. Et moi, je prêcherais plutôt du côté de la paisibilité pour que les choses puissent se passer en toute quiétude, de la même manière que les élections sont passées au premier tour, afin de permettre au peuple nigérien de choisir lequel des deux candidats va pour les 5 ans à venir présider aux destinées de leur pays.
Deuxième sujet, Bonheur Baseka, la présidentielle, cette fois prévue le 21 mars prochain dans votre pays, le Congo. La Cour constitutionnelle a validé cette semaine 7 candidatures, dont celle du président sortant Denis Sassou Nguesso, qui brigue un quatrième mandat. Réaction?
Alors, il s'agit donc d'une élection qui va se passer dans un contexte assez inédit, dans la mesure où, pour la première fois, nous aurons aussi une classe politique, je dirais, un peu recomposée, où il y aura un jeune de moins de 40 ans candidat, mais surtout parce qu'il y a une chose aussi qui s'oppose, c'est l'espèce de deux poids deux mesures au niveau du système électoral congolais, où celui qui est président donc, de la Commission nationale électorale indépendante, pour ses affinités avec le parti au pouvoir, est à la fois président de la Cour suprême et président de cette Cour, et ça pose la question un peu, ce qui est légitime d'ailleurs, de la crédibilité de cette élection. Que nous
les opposants s'inquiètent de l'impartialité de ce président.
Oui, je pense que s'interroger sur l'impartialité de cette présidentielle est une question judicieuse, d'autant plus que la conférence épiscopale a porté la question au grand jour en émettant des réserves sérieuses. Mais au-delà de tout cela, moi, j'invite les autorités du pays à lever cette espèce d'équivoque pour que la personne qui soit donc président de cette commission puisse être un peu, comme on dit chez nous, l'arbre au milieu du village.
Mais vous pensez qu'il le sera? Le président sortant lui-même a promis des élections transparentes.
Alors, nous souhaitons évidemment que des élections transparentes et inclusives puissent se faire, même s'il faut le dire que les signaux ne vont pas tout à fait dans ce sens-là. Mais toute raison gardée, c'est pourquoi nous appelons les jeunes et j'appelle à travers cette radio le pouvoir à faire en sorte que cette élection puisse être non pas perçue comme gagnée d'avance, mais comme le point culminant qui permettra aux Congolaises et aux Congolais de participer avec toute la quiétude de leur âme rationnelle au libre choix de celui qui, pour les 5 ans à venir, présidera aux destinées de la nation.
Dernière actualité avec vous, Titi Bonheur Baseka, c'est bien l'actualité politique au Sénégal, dominée par l'affaire de l'opposant Ousmane Sonko, dont la levée de l'immunité suscite une vive polémique. Ses partisans parlent de cabale politique.
Vous savez que c'est toujours assez particulier de porter un jugement ou une analyse sur une affaire d'agression sexuelle. Parce que, surtout quand il s'agit d'une personnalité politique de premier rang, comme M. Ousmane Sonko, qui, rappelons-le, était arrivé troisième aux dernières présidentielles. Parce qu'on est partagé à la fois entre l'émotion de l'agressivité de l'acte et la véracité ou pas de cet acte. Il faut aussi savoir que, jusqu'à preuve du contraire, le député, donc M. Ousmane Sonko, bénéficie d'une présomption d'innocence. Cependant, il faut que la vérité puisse être établie sur cela. Après, parlons de cabale politique ou pas, je le disais tout à l'heure d'entrée de jeu qu'en politique, tous les coups sont permis. C'est pourquoi il faut que les populations comprennent que la réalité quotidienne de la vie en société est souvent aux antipodes de la réalité politique.
Merci beaucoup, Titi Bonheur Baseka, d'avoir été notre invité. Carte blanche de ce soir.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Sans la participation de l'opposition béninoise au prochain scrutin présidentiel, celui-ci sera-t-il inclusif et transparent ? Nous en parlons ce soir avec nos trois invités, Distel Amoussou, directeur général de l'agence de documentation, de liaison et de services spéciaux. C'est une agence qui fait la promotion du gouvernement de Patrice Talon. Et nous avons également dans cette émission Donklam Abalo, porte-parole de l'USL, c'est l'Union sociale libérale de Sébastien Ajavon. Bonsoir Monsieur Abalo.
Bonsoir à vous, bonsoir à tous vos auditeurs.
Merci également à vous, Joël Ataï-Guébégdé, de nous rejoindre dans cette émission. Et dans quelques instants, on les retrouvera les deux autres invités qui ne nous ont pas encore rejoints. Mais nous tenons à signaler que Eric Oundété, président du parti Les Démocrates, qui avait confirmé sa participation, a finalement décidé de ne pas y prendre part. Il s'est désisté à 30 minutes donc, de cette émission et nous allons commencer avec vous, Donklam Abalo, le temps que nous rejoignent Joël Ataï-Guédégbé et Distel Amoussou. Le président Patrice Talon va donc affronter Alassane Soumano du FCBE, vu comme parti allié du pouvoir, ainsi que Corentin Koué, dissident du parti d'opposition Les Démocrates, créé par l'ex-président Boni Yayi après son départ du FCBE. Quelles sont les raisons qui font qu'on présente au niveau de l'opposition ces deux adversaires de Patrice Talon comme n'étant pas de vrais opposants ?
Non, je vous avais déjà dit la dernière fois, souvenez-vous, que tout a mis en œuvre pour que le président Talon ait en face de lui des candidats qu'il choisit lui-même. Donc je vous avais même dit qu'on aurait probablement trois tickets. Voilà, ça n'a pas raté. On a effectivement trois tickets. Et je suis surpris que vous parliez de Corentin Koué comme étant le représentant du Parti des Démocrates. C'est totalement faux parce que il a été exclu de ce parti politique. Et la liste qu'on a retenue pour Monsieur Corentin Koué, c'est un parti dont on n'avait jamais entendu parler au Bénin.
J'ai parlé du parti dissident, la dissidence des Démocrates.
Non, mais quelle dissidence ? À quel moment il y a eu cette dissidence ? Voyez-vous, tout a été créé, monté de toutes pièces, puisque Corentin Koué et son colistier présentent un logo et un nom qu'on appelle « Restaurer la confiance ». Personne n'avait jamais entendu parler de ça au Bénin. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que Corentin Koué représente les démocrates, puisque les démocrates ont déposé officiellement un ticket qui a été rejeté par la Commission électorale nationale autonome. Donc en face, vous n'avez pas les démocrates, vous avez un parti créé de toutes pièces que personne ne connaissait au Bénin.
Donc vous estimez que Corentin Koué a été préparé par le pouvoir pour créer la dissidence au sein des démocrates ?
Mais tout est clair, puisque les démocrates l'ont exclu. Et les démocrates ont également exclu son colistier, M. Agossa. Et donc, vous comprenez toute la manœuvre qui a été faite jusque-là. Et parlons des forces coriées pour mener émergence. Ça fait longtemps que nous vous disions que ce parti est un autre bloc du président Talon. Donc finalement, nous nous retrouvons avec des candidats appartenant justement à un même bloc politique, à un président qui veut se faire réélire en choisissant en face...
Mais c'est vous qui les présentez comme étant, voilà. N'étant pas de vrais opposants, étant des alliés du pouvoir, eux ne se revendiquent pas comme tels.
Oui, mais nous, c'est un jeu politique, ça tout le monde le sait. Voyez-vous, on sait qui sont les opposants dans le pays. On sait très bien qu'est-ce qui a été fait pour que les FCBE aient leur CPC. On sait très bien, donc c'est un secret de Polichinelle. Finalement, madame la journaliste, nous continuons à le dire, nous l'avons toujours dit d'ailleurs, dès le président Patrice Talon a choisi ses compétiteurs en face. Il n'a pas envie d'ouvrir une compétition, il a envie de foncer tête baissée, avoir un deuxième mandat sans compétition. Ben écoutez, tous les éléments sont réunis aujourd'hui pour le dire.
Merci.
Et ça n'honore personne, ni le camp présidentiel, ni la démocratie au Bénin. Nous sommes totalement tristes pour le pays.
Monsieur Abalo, merci. Monsieur Amoussou, bonsoir, soyez le bienvenu.
Bonsoir madame, bonsoir aux amis auditeurs de la Radio Africa.
Directeur général de l'Agence de documentation de liaison et des services spéciaux, je vous présente à nouveau parce que vous n'étiez pas encore là au moment où on le faisait. Alors, monsieur Amoussou, l'opposition vous accuse d'avoir choisi à chaque fois les transfuges, que ce soit pour les FCBE que pour les démocrates.
Vous parlez de quelle opposition ? Le Bénin a une opposition hétéroclite. Et vous,
Monsieur Abalo vient de l'affirmer.
L'opposition est hétéroclite au Bénin. Vous en avez la preuve. La preuve éloquente, c'est que M. Eric Roundété s'est désisté de cette émission, de sa participation à cette émission, à 30 minutes de l'émission. Et bien, ça a toujours été la politique des démocrates. Ça a été globalement la politique de l'opposition politique au Bénin. Et lorsque M. Abalo, mon frère, donc là, Abalo est en train de parler aujourd'hui au nom des démocrates, je rigole. Je rigole simplement parce que son parti, l'ISL, a refusé, s'est abstenu de participer au grand rassemblement qu'est voulu et pensé à
travers. Pardonnez-moi, M. Amoussou, sauf si j'étais distraite, je ne l'ai pas entendu dire qu'il parlait au nom des démocrates.
Mais puisqu'il prend la défense des démocrates en disant qu'il y a un ticket qui a été validé par la Sénat et confirmé par la Cour constitutionnelle, que ce ticket qui est composé des premiers responsables des démocrates n'était pas le ticket des démocrates. Alors, sur quoi il se fonde pour le dire ? Est-ce qu'il est devenu membre des démocrates aujourd'hui ? Non, puisque il y a eu conciliabule, il y a eu mésentente au sein des démocrates, qui, finalement, ont présenté trois tickets, et sur les trois tickets, deux ont été rejetés parce que ne répondant pas aux dispositions légales, il y a un ticket qui a été attesté valable et qui est aujourd'hui en compétition. Au nom de quoi, mon ami Tonklin pense que ce ticket n'est pas celui des démocrates, puisque après, il y a eu une décision, une querelle interne entre eux et les démocrates ont décidé de mettre de côté les représentants du ticket qui a été validé.
Et c'est celui-là qui a été, ce ticket exclu par les démocrates qui a été validé par la Sénat puis la Cour constitutionnelle.
Je vous dis que les démocrates ont présenté au moins deux tickets. Il y a le ticket Rekiat Mandoukou et Patrick Divoy, et il y a le ticket Irénée Agossa et Corentin Koroui. Voyez-vous, alors maintenant, sur les deux tickets, il y a un qui a été déclaré non conforme parce que ne répondant pas aux dispositions légales, n'ayant pas présenté de parrain, et il y a un ticket...
Mais lorsque le président Talon lui-même s'arroge 118 des 159 parrainages, que restait-il pour les autres ?
Nous sommes des journalistes, nous sommes des communicants, et lorsqu'on dit que quelqu'un s'est arrogé de quelque chose, ça veut dire qu'il y a méprise. Il y a méprise parce que les parrains sont libres, n'est-ce pas, de parrainer qui ils veulent. Alors, lorsque les démocrates, pendant longtemps, ont insulté les députés, ont traité ces députés de godillots, et lorsque les maires ont été insultés tout le temps de maires achetés, de maires nommés, et que la loi fait de ces personnalités politiques, députés, maires...
Donc pour vous, les députés de la majorité leur ont refusé leur parrainage pour sanctionner ces injures supposées ?
Je n'ai pas été à la table des négociations.
C'est vous qui tentez de justifier pourquoi ils n'ont pas eu les parrainages. Autant aller jusqu'au bout de votre démonstration.
il y a le président Éric Rouletet qui, dans la cour de la Sénat, disait « Nous n'avons pas besoin de parrains et même si on nous les donnait gratuitement, on ne les prenait pas. » Au même moment, la candidate Rekiat Badougou, qui postulait au nom des démocrates, disait « Nous avons besoin de démocrates, nous avons besoin de parrains, il faut nous libérer les parrains. » Alors, vous constatez qu'il y a double langage.
Merci beaucoup.
Au même moment, le président du parti, Éric Rouletet, disait « On n'a pas besoin de parrains, même si on nous les donnait gratuitement. »
Oui, vous l'avez dit, monsieur Amoussou, on a parfaitement entendu que vous dites qu'il y avait dissidence au sein des démocrates. Monsieur Joël Ataï Guébégdé, vous êtes là ?
Oui, bonjour.
Voilà, comment analysez-vous tout ce débat autour de la liste des candidats pour la présidentielle du 11 avril prochain dans votre pays ?
Bon, c'était relativement prévisible, quoi qu'on aurait pu s'en passer. Il n'empêche, bon, chacun choisit à quel moment il va créer des incidents ou intoxiquer l'opinion, alors que le dessous de table est certainement autre. Il n'empêche, nous sommes effectivement devant une loi électorale qui est controversée et notamment qui est combattue par l'ensemble de ceux qui se réclament de l'opposition représentée ou non dans les instances. Et puis, de l'autre côté, nous avons des partis qui disent soutenir l'action du chef de l'État, principalement deux qui sont exclusivement représentés à l'Assemblée nationale depuis 2009, qui ne trouvent pas à redire à tout ce qu'ils ont fait avec l'accord plus ou moins tacite d'autres partis, y compris de l'opposition. Mais voilà, un processus électoral est difficilement rétrogradable, fait difficilement marche arrière. Il n'empêche, ces lois ont été quasi unilatéralement mises en place par un ensemble de partis. Et ceux qui sont hors des institutions, notamment les démocrates, qui n'ont pu se constituer que très récemment, je crois il y a moins de 6 mois ou 8 mois, au bout de plusieurs péripéties, ben ceux-là ont beau jeu de demander qu'on retourne au statu quo ante et se réfère principalement aux décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples que le gouvernement du Bénin a récusé. Bon, nous en sommes là où la Constitution est en vigueur.
Vous venez de dire que oui, nous en sommes là, mais c'est une situation prévisible, avez-vous dit en début de vos propos. Mais pourquoi on me fait signe qu'on l'a perdu, monsieur Joël Ataï Guédégbé, donc on va revenir à vous tout à l'heure. Monsieur Donklam Abalo, est-ce que vous avez une réaction suite aux propos de monsieur Amoussou qui estime que de toute façon l'opposition était divisée et semble-t-il, si finalement on se retrouve avec le choix fait par la Sénat et la Cour constitutionnelle de valider les candidatures des dissidents, l'opposition n'a qu'à s'en prendre à elle-même, notamment les démocrates.
Ben évidemment que j'ai quelques réactions à avoir. D'abord, je n'ai jamais été présenté comme représentant des démocrates, donc je n'ai jamais pris la parole au nom des démocrates. Je fais une analyse de la situation politique, première chose. Deuxième chose, dans aucun texte au Bénin, un parti ne peut présenter 2 tickets. Donc lorsque M. Dissa Lamoussou dit que les démocrates ont présenté 2 tickets, constatez avec moi que c'est faux et archi faux. Les démocrates ont présenté 1 seul ticket et par voie d'huissier. Donc c'est très clair pour nous. Ce ticket a été rejeté par faute de parrainage. Les autres qui ont présenté le ticket sont ceux que le pouvoir a démarché dans les démocrates pour créer la division et prendre les attributs de ce parti pour le représenter. C'est tout. Mais que lorsqu'ils se sont retrouvés devant le fait accompli, parce que finalement les 2 colistiers ont été chassés, ont été suspendus de leur parti, et ils ont créé, je ne sais quoi, un mouvement ou un parti qu'on appelle Restaurer la confiance. On n'en avait encore jamais entendu parler au Bénin. Donc vous constatez simplement que ce sont des manœuvres pour pouvoir valider une élection bien tronquée d'avance. Le président Patrice Talon a pris l'habitude de nous dire qu'il est un compétiteur né. Et nous avons toujours dit, mais dans ce cas, si monsieur le président, vous êtes certain d'avoir satisfait les Béninois, vous êtes certain d'avoir posé des actes qui montrent votre bonne foi, votre bravoure, mais ouvrez la compétition, permettez à tout le monde d'y aller et gagner. Mais oui, mais lorsque vous empêchez les gens d'aller à des élections par des manœuvres dilatoires, par des lois que vous faites voter par 83 députés sur 83, nous ne sommes plus en démocratie. Et lorsque vous suivez le développement de Gisèle Abossou, vous vous rendez compte simplement que c'est une vaste orchestration, une vaste machination.
Merci beaucoup, Monsieur Abalo. On va marquer une pause, messieurs, et on se retrouve pour poursuivre évidemment notre débat.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous parlons ce soir de la présidentielle du 11 avril prochain au Bénin. Trois listes ont été validées, dont celle du président sortant Patrice Talon. L'opposition l'accuse d'avoir verrouillé le processus. Qu'en est-il exactement et quelle stratégie pour l'opposition? Nous en parlons avec nos invités. Donc, Clam Abalo, porte-parole de l'USL, parti d'opposition. Distel Amoussou, directeur général de l'Agence de documentation de liaison et de services spéciaux, qui fait la promotion du gouvernement Talon, et Joël Ataï Guédégbé, politologue, qui est avec nous. Monsieur Ataï, vous êtes là?
Oui, je suis.
Alors, on vous a perdu. On espère qu'en changeant de système d'appel, on vous aura maintenant sans interruption. Vous étiez en train d'expliquer que ce qui arrive aujourd'hui était attendu. Mais le président Talon avait lui-même, face aux inquiétudes de l'opposition, promis des élections inclusives. Est-ce que c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, finalement, avec les trois listes?
J'avoue qu'il y a probablement de quoi être déçu. Mais nous sommes sur le terrain politique où on peut se manipuler, on peut lancer des effets d'annonce, on peut lancer des ballons d'essai. Et surtout, il faut pouvoir attraper ou capter la réponse aux stimuli que vous envoyez. Est-ce qu'il y a une volonté de partenariat, de travailler, de concourir à l'intérêt général, un tant soit peu, de part et d'autre? Si cette volonté n'est pas clairement à l'ordre du jour, du banc de touche, nous aurions beau souhaiter les plus belles élections qui soient, les plus idylliques qui soient, le jeu politique va être pourri à l'envi. Et il ne faut pas s'en étonner du tout. Et vous ne pouvez pas vous prévaloir de vos propres turpitudes non plus. De toute façon, aucun cas n'a l'exclusivité de l'incohérence et des inconséquences. Mais on peut.
Donc vous mettez dos à dos pouvoir et opposition de.
Oui, je ne veux pas renvoyer.
Ils sont tous responsables de la situation actuelle.
À certains moments, je prends le camp présidentiel par exemple, avec les lois qui ont été votées et qui ont démontrer des difficultés d'applicabilité. On aurait pu anticiper, on aurait pu se rendre compte qu'une partie substantielle de la classe politique n'était pas représentée à l'Assemblée nationale et qu'on ne pourrait pas, qu'on ne se devrait pas d'aller à des lois aussi cassantes, quelle que soit la légitimité, le bien fondé de la réforme du système partisan. Sur le diagnostic, je crois qu'il y a très peu de divergences sur l'ensemble, au niveau de l'ensemble de la classe politique.
Mais vous dites qu'il n'y a pas de divergence, mais il y a un ancien questeur de l'Assemblée nationale, en l'occurrence Maxime Oudjessine, qui estime que la lourde responsabilité de cette situation incombe aux deux précédents présidents de l'Assemblée nationale, dont Oumbedi, qui ont validé une loi électorale qui était inique. Selon l'opposition.
Non, ce n'est pas au président de l'Assemblée de valider. Au contraire, il participe à l'adoption d'une loi. C'est la Cour constitutionnelle qui fait le contrôle de constitutionnalité qui valide. Et il aurait pu, je serais d'accord avec lui, s'il disait qu'une partie de l'opposition actuelle.
Mais cette loi est passée devant l'Assemblée nationale, dans la configuration qu'on connaît avant d'aller au niveau de la Cour constitutionnelle.
Oui, on est d'accord sur ça, que donc c'est pas seulement le président de l'Assemblée, c'est l'ensemble des députés, je dis y compris ceux qui n'ont pas pu retourner à l'Assemblée en 2019. Cette loi a été adoptée à l'unanimité moins une voix. Et c'était un diagnostic partagé. Non, cette loi, certains aspects de cette loi, puisqu'elle a été modifiée plus tard. Et c'est sur ça qu'il faut critiquer l'action de la majorité autour du président. Et en voulant y aller, en voulant accélérer le rythme, il faut s'assurer que tout le monde puisse suivre dans l'ensemble. Et il manque substantiellement à cette loi sur le parrainage qui se veut une manière de limiter les candidatures, a priori. il manque simplement des dispositions transitoires pour s'assurer que le pluralisme le plus large soit assuré. Le président de la République a cru corriger ça en donnant des gages.
Il n'a pas finalement tenu sa promesse.
Ben, c'était pas lui. Lui aussi, il était, disons, il était en quête de parrainage.
Merci.
La loi ne limite même pas le nombre de parrainages, ne limite pas la proportion. Et très tôt, on pourrait s'apercevoir qu'on aurait une situation absurde où la grande majorité des parrainages irait vers un seul candidat.
Merci beaucoup.
Dans une élection de son intérêt.
Merci, M. Joël Ataï-Guédégbé. Monsieur Amoussou...
Oui, il me tient malgré tout de dire que l'opposition ne veut pas non plus choisir les lois qu'elle veut s'appliquer et rejeter certaines autres. Une loi, c'est un tout également.
Merci
Donc,
beaucoup.
Il y a de l'inconséquence également de la part d'une frange de l'opposition, je voudrais dire.
D'accord, merci. Monsieur Amoussou, vous estimez que malgré les critiques de l'opposition, les candidatures telles qu'elles sont, finalement l'élection se déroule avec les trois listes, pour vous, l'élection sera malgré tout inclusive et représentative, compétitive aussi?
Madame, avant de répondre à votre question, je vais vous dire que le concept de la démocratie n'implique pas la gestion des humeurs. C'est la gestion des lois et le respect des lois, les lois de la République. Le Bénin s'est doté de lois de la République et de lois électorales. Et lorsqu'on accepte de respecter un pan de cette loi et de ne pas respecter l'autre pan de la loi, eh bien, le problème se pose à son propre niveau. Voyez-vous, maintenant, vous parlez d'élections inclusives. Écoutez, le FCB représente...
Ouverte et compétitive. Est-ce qu'il y aura vraiment match avec la...
Il y aura match parce que je ne sais pas sur quelle base on pourrait douter de la capacité, n'est-ce pas, des FCB, n'est-ce pas, notamment dans le parti septentrion, le FCB qui présente...
Le FCB peut-être, parce que le FCB est le seul parti dit d'opposition à l'Assemblée nationale et qui a également participé au municipal. C'est peut-être pour cela que certains de vos adversaires voient le FCB comme, en fait, un allié du pouvoir.
C'est un jugement de valeur. Et moi, je ne gère pas les humeurs. Moi, je gère mes analyses en fonction des lois de la République. Maintenant, si les humeurs d'un groupe de personnes les empêchent de respecter l'entièreté d'une loi et de choisir le respect d'un pan de la loi, eh bien, c'est leur problème. Moi, je ne table pas dessus. Ce sur quoi moi je table, c'est d'éviter, n'est-ce pas, de refuser dans les analyses de diminuer, n'est-ce pas, et la possibilité ou la qualité des personnalités qui sont en compétition. Regardez, prenez par exemple M. Djemba, qui a une personnalité d'envergure, de grande envergure dans le septentrion et dans tout le Bénin particulièrement. Voyez-vous, représente une carte très, très, très crainte aujourd'hui par la mouvance en place. Voyez-vous, c'est une personnalité qui a la carrure, n'est-ce pas, et qui a le cheminement, qui a la posture pour briguer la magistrature suprême. Et c'est confiant que les FCB l'ont positionné. Et ça, il ne faut pas négliger ça.
Donc,
il faut pas dire que ça va être...
Patrice Talon ne va pas sur un boulevard et peut-être qu'il n'y aura pas un coup KO ?
Évidemment que non. Évidemment que non. Le dire, c'est une incantation. C'est un slogan. Et tout le monde, tout athlète qui va compétir, dit, n'est-ce pas, prédit la victoire. Et on ne va pas à une compétition pour dire « je vais perdre ». On va à une compétition en se dopant, mais pas en se dopant le moral, en disant « je vais gagner ».
Merci
beaucoup.
Et lorsque
les gens de la mouvance estiment qu'ils vont faire le chaos, ben écoutez, c'est de bon droit. Il en est de même pour les FCBE qui disent « ben écoutez, attendez de voir, la surprise sera totale ».
Merci beaucoup. Et en parlant de surprise, merci monsieur Amoussou, en parlant de surprise, monsieur Donklam Abalo, quelle sera la stratégie de l'opposition ? Est-ce qu'on pourrait envisager que l'opposition, au cas où elle n'aurait pas l'oreille du président, puisque certains appellent à une dérogation, si elle n'a pas l'écoute du président, si elle n'a pas une suite favorable du président, est-ce qu'on pourrait envisager que l'opposition se mette derrière les deux listes pour peut-être créer une surprise ?
Non, n'espérez pas ça. Vous savez, c'est très facile de se cacher derrière les lois. Voyez-vous, même les grands dictateurs se cachent derrière les lois. Même Hitler a fait son action à travers des lois. Hein? Et donc, on met des lois devant, des lois votées par 83 députés sur 83, vous pensez que ces lois sont sérieuses? Ce sont des lois qui arrangent un camp, et c'est très clair.
Le politologue Guébédé, que vous n'accuserez pas ici d'être d'un camp comme d'un autre, dit que l'opposition est aussi responsable de cette situation.
L'opposition est responsable de quoi? Lorsque vous l'écoutez, vous comprenez que c'est, il s'agit de ceux qui ont déposé un dossier, il s'agit de ceux qui ont choisi peut-être de d'éprouver la réforme du système partisan. C'est une stratégie. C'est une stratégie pour éprouver la réforme du système partisan, pour démontrer clairement que nous sommes dans du faux. Donc quand on parle de loi pour reposer sa dictature, eh bien tout le monde comprend ce jeu-là. Et quand vous écoutez M. Destelamossou, vous vous rendez compte que, eh bien, c'est eux qui ont choisi, dans un cas comme dans l'autre, qui sera un candidat. Nous avons un système dans lequel nous ne connaissons pas la liste électorale, puisque nous n'avons pas participé à la modification de la liste électorale. Nous sommes dans un système où nous ne connaissons pas encore le nombre de bureaux de vote, ni de centres de vote. Nous sommes dans un système où nous ne sommes représentés dans aucune institution d'organisation d'élections, ni de contentieux des élections. Et vous comprenez très bien, lorsque vous voyez le fonctionnement de la Sénat et de la Cour constitutionnelle, qu'on déroule le calendrier électoral malgré toutes les récriminations, donc le gouvernement fonce tête baissée dans le mur. Et donc quand vous avez ce schéma-là, vous voulez parler de quoi? D'élections libres et transparentes? Vous voulez parler d'élections inclusives? Vous voulez parler de deux tours? Non. Le président, la dernière fois lorsqu'il allait faire sa visite médicale, il a clairement dit que ça sera un coup, puisqu'il a dit au 12 avril, c'est-à-dire le lendemain, eh bien il serait prêt à être invité à n'importe quelle fête. Donc tout est planifié.
Merci.
Pour que le président Talon puisse maintenir le pouvoir. C'est un hold-up. Et nous autres, et ça je le dis très rapidement pour finir, il y a des décisions supranationales qui existent. Nous exigeons le respect des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et cette Cour fait tomber toute l'architecture légale. La révision, les réformes politiques, la réforme du système partisan, mais tout ça, ça n'existe plus à
Merci.
Partir du moment où il y a une décision de droit.
Merci
c'est
beaucoup,
tout.
Monsieur Abalo. En tout cas, les juges de la Cour constitutionnelle vous ont répondu par rapport à cet arrêt de la Cour dont vous parlez, mais ce n'est pas le débat. Monsieur Guédégbé, que restait-il à l'opposition aujourd'hui si finalement cette dérogation demandée par certains candidats sur les parrainages n'était pas accordée par le président Talon?
Non, entendons-nous définitivement. C'est pas au président Talon d'accorder des parrainages. Il peut tirer la ficelle, probablement, mais ce sont les députés et les maires. Rien que...
Les opposants, je pense, estiment qu'ils pourraient prendre un décret qui fasse que les candidats puissent déposer leur... puissent être acceptés, les candidatures puissent être acceptées sans parrainage.
Non, on est déjà au-delà de cette étape, malheureusement. Je crois qu'on aurait pu y aller s'il y avait eu un effort pour un dialogue politique, pour échanger un peu à bâton rompu sur quelques questions essentielles. Le processus est engagé, sauf cataclysme. Je ne vois pas comment il pourrait s'arrêter. Non, ma foi, certains pourront créer des incidents. Le pouvoir pourrait se prendre les pieds dans le tapis. Ça, c'est autre chose. Mais un processus électoral a sa logique propre. Il va étape par étape. Des gens ont joué le jeu. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont demander de la rétroactivité.
Pas possible donc, d'avoir cette dérogation. Est-ce que dans ce cas, l'élection... Si l'élection est organisée dans la configuration actuelle, est-ce que vous diriez, compte tenu de votre connaissance des candidats et des listes présentées, que cette élection sera véritablement compétitive?
Elle ne le sera que si les acteurs s'y mettent. Il n'y a pas de victoire assurée pour ceux qui sont au pouvoir. On a vu le président Soglo perdre le pouvoir malgré de bonnes réalisations économiques en 1996. Donc une élection, a priori, n'est jamais jouée à l'avance. L'opposition, comment s'organise-t-elle? Et après les anathèmes, après les exclusions, va-t-elle continuer dans la désunion et finalement dans la désorganisation? Ce serait déjà, comme étant annoncé avant l'heure, sa propre défaite. Donc l'heure n'est pas aux anathèmes comme étant aux... Non, il s'agit de s'organiser, d'occuper le terrain, de convaincre les indécis qu'il y a moyen de challenger, par exemple, celui qui pourrait se croire déjà réélu au premier tour. Et ne pas le faire et venir crier à la fraude après, venir crier au contrôle exclusif des institutions me paraît malsain.
Merci.
Et ce que mon ami Donclem Abalo demande n'a jamais eu lieu. Au contraire, ce qui a pu être accordé, on me dira, les CBE sont de convenance, mais ils ont pu participer aux élections communales, ont eu quelques élus, ont réclamé alors que la loi votés depuis une dizaine d'années ne le disposent pas ainsi, ils ont pu obtenir d'être dans les conseils communaux, dans les commissions d'actualisation de la liste électorale jusqu'au niveau national. On ne peut pas y mettre tout le monde non plus.
Merci beaucoup, Monsieur Joël Ataï Guédégbé. Pour ces analyses, on marque une dernière pause. Messieurs, on se retrouve dans quelques minutes.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Nous entamons le dernier quart d'heure de votre émission ce soir, le grand rendez-vous avec l'absence de poids lourd de l'opposition béninoise. L'élection présidentielle du 11 avril prochain est-elle jouée d'avance? Nous en parlons ce soir avec Ndonklam Abalo, porte-parole de l'USL, parti d'opposition, Joël Ataï Guédégbé, politologue, et Distel Amoussou, directeur général de l'agence de documentation de liaison et de services spéciaux qui fait la promotion du gouvernement béninois. Et nous donnons la parole à vous, M. Amoussou. Mais avant cela, je rappelle que Eric Oundété, président du Parti Les Démocrates, invité pour participer à ce débat, s'est désisté à 30 minutes de cette émission. Monsieur Amoussou, malgré tout ce que vous dites, vous avancez comme argument pour dire que l'élection est inclusive. Les candidats de l'opposition, les deux en tout cas qui ont été retenus, sont représentatifs. Il faut quand même admettre que cette élection, la septième du Bénin depuis l'avènement du processus de démocratisation en 90, se tient dans des conditions, on peut dire, curieuses et inédites. Allô, Monsieur Amoussou, je vous vois à l'écran, Monsieur Amoussou, est-ce que vous êtes là, Monsieur Guébégdé, vous m'entendez, Monsieur Abalo, je n'ai plus personne, pourtant tous me semblent en ligne. Je rappelle que nous parlons ce soir de la présidentielle du 11 avril prochain au Bénin avec la candidature des principaux membres de l'opposition qui a été rejetée à la fois par la Sénat puis la Cour constitutionnelle. Celle de Patrice Talon, le président sortant, a été validée. Aura-t-il des adversaires sérieux le 11 avril prochain? Le scrutin est-il joué d'avance? Nous en parlons ce soir avec nos invités que nous tentons de joindre. Joël Ataï Guédégbé, qui est politologue, il est en ligne de Cotonou au Bénin, de même que Ndonklam Abalo, porte-parole de l'USL, c'est l'Union sociale libérale, le parti de Sébastien Ajavon, arrivé troisième à la présidentielle de 2016, et qui avait d'ailleurs appelé à voter Patrice Talon face à Lionel Zinsou. Et nous avons également sur ce plateau Distel Amoussou, directeur général de ADLSS, qui est l'agence de documentation, de liaison et de services spéciaux. C'est une agence qui s'occupe de la promotion du gouvernement béninois. Et nous avons également Ndonklam Abalo. J'espère qu'il est là en ce moment. Est-ce qu'il m'entend? Monsieur Abalo,
oui, je suis là.
Voilà,
je suis là, parfait.
Voilà, mais je voulais poser ma question à Distel Amoussou. Hugo, est-il là? Oui, Distel Amoussou. Allô, Monsieur Amoussou, on me fait signe que vous êtes en ligne. Est-ce que vous m'entendez?
Je vous entends très bien.
Oui, Monsieur Amoussou. Alors, je demandais que, malgré les arguments que vous apportez pour soutenir que l'élection présidentielle du 11 avril prochain est représentative, inclusive et qu'elle sera également compétitive, est-ce qu'il ne faut pas quand même reconnaître, au regard de tout ce qui se dit, que cette septième élection de l'ère post-démocratie au Bénin se déroulera, si les conditions restent les mêmes, dans un contexte assez curieux et inédit?
Non, le contexte sera certainement curieux, mais il ne sera pas inédit parce que nous sommes dans un contexte de réforme du système partisan. Voyez-vous, le Bénin a perdu trop de temps pour jouer la carte du développement. Et aujourd'hui, avec le président sortant, le président Patrice Talon, le Bénin a décidé d'aller, n'est-ce pas, sur le terrain économique et de savoir, de prouver ce qu'il sait faire. Et regardez aujourd'hui...
Donc en écartant les adversaires, cela permet d'assurer le développement du pays?
Pas du tout. J'en aurais fini lorsque je vous aurais dit, par exemple, qu'aujourd'hui au Bénin, au niveau de l'énergie et du courant électrique, le Bénin produit déjà plus de 60% de ses besoins, de sa consommation propre. Voyez-vous, on ne va pas perdre le temps à faire de la diversion comme le font aujourd'hui certains camps de l'opposition. Non, ce n'est pas parce qu'on a perdu des privilèges, ce n'est pas parce qu'on vous demande aujourd'hui de payer et honnêtement vos impôts. C'est pas parce que le poids est aujourd'hui sous contrôle, c'est pas parce que la fiscalité est sous contrôle aujourd'hui au Bénin qu'on va se décréter opposant, qu'on va se décréter acteur politique pour chercher à jouer au trouble fait. Non, le Bénin a besoin d'inscrire son nom dans le Conseil des Nations comme un pays de développement, comme un pôle de développement. Regardez la qualité du coton béninois, le rang que nous occupons aujourd'hui. Voyez-vous, donc on ne va pas Allô?
Oui, on vous écoute, monsieur Moussou.
On ne va pas perdre le temps.
Merci.
À discutailler.
Oui, mais très rapidement, monsieur Moussou, voilà. Vous dites que l'enjeu aujourd'hui, c'est le développement. Mais lorsqu'en 3 ans, on voit quand même des procédures judiciaires qui finissent par écarter 3 personnes, on se dit qu'il y a quand même un problème. Sébastien Agevon, Lionel Zinsou lui-même. Donc, est-ce qu'on ne peut pas quand même dire qu'il y a des questions à se poser?
Ces 3 personnes ne sont pas les 12 millions de Béninois que nous sommes. Et ces 3 personnes-là, lorsque vous les prenez individuellement, sont des personnes qui ont pesé dans le désastre économique que nous avons connu. Parlant de Sébastien Agevon, citez-moi les 2 autres et je vous dirai.
Il y a le Komi Koutché qui est en exil.
Koutché a été ministre des Finances et il a été un allié de Sébastien
Agevon. Mais Lionel Zinsou, c'est pour autre chose. Oui, et Lionel Zinsou aussi, c'est pour dépassement de budget de campagne. Ça n'a rien à voir avec des détournements.
S'il vous plaît, invitez Lionel Zinsou et posez-lui la question, parce que vous n'avez certainement pas lu, et vous échappez de lire ces derniers écrits sur la santé de l'économie béninoise aujourd'hui.
D'accord.
Sur la vitalité de l'économie béninoise. Interrogez M. Lionel
Zinsou. Donc il est dans votre camp aujourd'hui, c'est ce que vous nous diriez? Il a rejoint la majorité ou il est en passe de rejoindre la majorité?
Je ne parle pas de
ça. Séduit par le bilan de talent, comme vous semblez le dire.
Je parle d'analyse scientifique. Je parle de la qualité, de la vitalité de l'économie béninoise aujourd'hui.
Merci beaucoup.
On n'a pas besoin d'être partisan.
Merci, monsieur Moussou. Il nous reste 3 petites minutes. On va conclure avec également les 2 autres intervenants. Donc, Kam Abalo, aujourd'hui, qu'est-ce que l'opposition compte faire aujourd'hui? Quelle sera la prochaine bataille, puisque les carottes semblent cuites concernant la prochaine élection pour l'opposition?
Et je crois que dans ce débat, il faut éviter la diversion. Vous nous avez invités pour parler du processus électoral, pas pour faire le bilan économique du président Talon. Ce que M. Dissela Moussou dit est tellement discutable que si vous nous aviez invités pour ça, on fera le point. Donc, il fait de la diversion, il n'a rien à dire. Lorsqu'on parle des questions de démocratie, eh bien, on ne peut pas sacrifier les libertés et les acquis démocratiques sur l'autel d'un sous-développement ou d'un développement obtenu avec grand sacrifice, avec des endettements massifs. Donc, nous ne faisons pas le débat du développement, nous faisons le débat des libertés.
Et sur ce que doit faire l'opposition maintenant?
Nous faisons le débat démocratique. Voilà, nous faisons des débats sur les acquis démocratiques. Et vous allez constater que tous ces acquis sont vendangés. Je suis surpris lorsque j'entends M. Ataïk Edegbe, qui est politologue et qui est plus est de la société civile, dire qu'il faut aller sur le terrain. Mais il parle de quel terrain? Mais les jeux sont biaisés. Il sait très bien que les jeux sont biaisés. Et donc aller sur le terrain pour aller valider une parodie d'élection, c'est ce qu'il nous demande. Mais je crois qu'en tant qu'acteur de la société civile, ce n'est pas son rôle de le dire ainsi. N'est pas son rôle, n'est-ce pas, de prendre cette position.
Merci, M. Abalo.
La solution reste politique. On ne peut pas aller à des élections dans le contexte pareil, parce que c'est un contexte nauséeux, c'est un contexte qui ne rassure pas, qui ne permet pas la paix et la tranquillité pour le Bénin.
Merci beaucoup, M. Guédégbé. Que reste-t-il à faire aujourd'hui où l'élection va sans doute se dérouler avec la configuration actuelle sans les opposants déboutés?
Non, tout le monde ne peut jamais être d'une élection. Ça, il faut que certains en fassent leur deuil. Nous sommes dans une possibilité d'alternance. Il faut pouvoir s'en saisir. Il y a également la possibilité de nouer le dialogue. Est-ce que les uns et les autres le veulent? Ou alors, est-ce que c'est la stratégie de la force, de la rue, au lieu des urnes? Moi, je ne sais pas. Je ne m'inscris en tout cas pas dans une stratégie hors d'un cadre légal qui, par ailleurs, a été approuvé par la CEDEAO, par les Nations Unies. Il n'empêche, je ne cherche pas de couverture de l'extérieur. Mais nos problèmes, nous devrions pouvoir trouver le moyen de nous asseoir pour les résoudre. Monsieur Donclam Abalo, s'il vous plaît, est-ce que votre parti a fait l'effort de s'enregistrer conformément aux nouvelles lois? C'est une posture qui se défend. Mais je ne suivrai pas Monsieur Distel Amoussou quand il veut opposer le développement économique à la démocratie. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est à travers la bonne gouvernance, à travers des indicateurs et mesurable, et qu'on peut se réconcilier, qu'on peut et définir où est-ce que nous en sommes. Il n'y a rien à retrancher à la démocratie, il y a simplement à en garantir les fondements essentiels et à garantir surtout le pain et la soutenabilité de tout ce qu'on a entrepris à travers le développement économique. Donc, il n'y a pas à opposer démagogiquement des résultats économiques à une démocratie qui soit simplement verbiage ou...
Merci beaucoup, Joël Ataï Guédégbé, politologue, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, Donclam Abalo, porte-parole de l'USL, de l'opposant Sébastien Djavon, Distel Amoussou, directeur général de ADLCS, agence de documentation de liaison et de services spéciaux, une agence qui s'occupe de la communication du gouvernement béninois. Et nous rappelons que Eric Oundété de Les Démocrates, le président des Démocrates, s'est désisté à la dernière minute, il n'a pas participé à cette émission. Et le débat se poursuit demain à 12h, heure de Paris, 11h, temps universel, encore sur le Bénin, avec l'invité du débat BBC Afrique, Africa Radio. Ce sera le porte-parole du gouvernement béninois, Maître Alain Orunla. Merci à vous d'avoir suivi. Merci à Hugo Vallière et à Edouard Ning. Bientôt, vous retrouvez cette émission sur africaradio.com.